Webcam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes.
14h, 16h, Brigitte Lahaye, Sud Radio.
Bonjour à tous, nous sommes ensemble jusqu'à 16h sur Sud Radio. Alors, je suis très joyeuse aujourd'hui et vous allez comprendre tout de suite pourquoi, puisque nous sommes en compagnie de notre docteur en émotion, Robert Zwilly. Et c'est vrai qu'on a souvent abordé avec lui la peur, la colère, parfois même la tristesse, mais finalement, on n'a jamais abordé la joie. Et pourtant, c'est quand même une émotion positive. Je crois que c'est même la seule émotion positive et qui est quand même utile, surtout en ce moment. Et puis, elle n'est peut-être pas assez valorisée. Donc, je vous propose, durant ces 2 heures, eh bien, de vous mettre en joie. Alors d'abord, la joie, elle est jouissive, me semble-t-il. Quoi de mieux qu'une libido en bonne santé pour se sentir joyeux? Et puis, il y a bien d'autres moyens de se mettre en joie. Alors, je vous pose la question, qu'est-ce qui vous met en joie, vous? N'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300 pour me dire qu'est-ce qui vous met en joie. Est-ce que c'est la nature? Enfin, quoi qu'aujourd'hui, à Paris, ce n'est pas terrible. Est-ce que c'est un enfant qui s'émerveille? Est-ce que c'est votre amoureux qui vous dit « je t'aime » ? Est-ce que c'est une réussite sportive ? La félicitation de votre patron ? Et puis peut-être tout simplement le plaisir, mais le plaisir au sens large. En tout cas, moi, ça me met en joie de vous recevoir aujourd'hui. Robert Zwilly, bonjour.
Bonjour Brigitte.
Alors c'est vrai, hein, on n'a jamais parlé de la joie ensemble.
Oui, parce que la joie, elle a un caractère furtif.
Bah zut alors, il va falloir tenir 2 heures, hein, Robert Zwilly, je vous préviens.
Et elle a ce caractère furtif parce que elle est une concrétisation d'efforts que nous avons mobilisés pour combattre d'autres émotions.
Alors, vous voulez dire que humainement on est plutôt triste ou peureux que joyeux?
En fait, il y a un phénomène que j'appelle celui de la hiérarchie émotionnelle, qui est une loi qui explique que toute joie ou toute tristesse est le fruit de colère ou de peur que l'on a su dépasser. C'est-à-dire que si j'ai peur de faire quelque chose et que je mobilise de nombreux efforts pour y parvenir
et que je réussis, je
serai en joie. Et l'intensité de la joie sera proportionnelle à l'intensité des efforts que j'aurai fournis. J'aurai une petite joie si j'ai fait de petits efforts.
Je parlais de la réussite sportive ou de la réussite professionnelle, ça nous met en joie donc.
Oui, ça nous met en joie puisque c'est le fruit d'efforts de longue haleine. D'abord parce qu'on a eu peur de ne pas être à la hauteur, parce que de temps en temps on a subi quelques injustices et puis on a réussi à redresser la barre. Et tout ça, ça fait que la réussite à laquelle on aboutit, elle est le fruit de ces stratégies, de ces efforts que nous avons mobilisés sur le long terme. Et puis, il y a des peurs qui nous font nous rendre tristes parce qu'on n'a pas su, justement, réussir quelque chose. Et là, on rentre dans une spirale infernale. Mais ça démarre très tôt dans notre vie, dès le plus jeune âge. Nos enfants sont soumis à des tensions émotionnelles qui font que si on arrive à les aider à les dépasser, parce que là, bien souvent, ils ont besoin de l'adulte comme ressource, eh bien, ils vont construire de la joie. Et cette joie est intimement liée avec l'estime de soi. C'est-à-dire que la joie, c'est le réservoir de l'estime de soi.
Alors, je vais évidemment parler de la libido. Est-ce que la libido, je parlais de la joie, de la jouissance, je veux dire, c'est jouissif la joie. Vous êtes d'accord là-dessus ?
Oui, et la libido, c'est le même mécanisme. C'est-à-dire que le plaisir dont vous parliez, qui est l'extase à un moment donné, et qui est une joie totale.
Mais je parlais presque du plaisir en règle générale. Par exemple, le plaisir de manger un très bon tartare ou une très bonne Saint-Jacques, c'est déjà de la joie, non ?
Alors, c'est du plaisir. Tout plaisir n'est pas forcément une joie en termes d'exaltation ou de sensations fortes. Il y a des plaisirs qu'on s'accorde qui sont le fruit de pas très grands efforts. Et ils n'ont de valeur que
vous voulez dire qu'il faut forcément qu'il y ait un effort pour être joyeux.
Et oui, et voire même plus.
Oh, c'est triste ça.
Et voire même plus, c'est-à-dire que certains considèrent que toute joie n'est légitime qu'à la condition non seulement d'avoir fourni des efforts, mais aussi d'avoir souffert. Si on n'a pas souffert, on ne mérite pas.
Mais c'est qui cela ?
C'est un grand nombre de personnes qui considèrent, parce qu'on leur a dit par exemple que quand ils étaient petits, on leur a dit, tu sais, si tu veux réussir dans la vie, tu vas en baver. Et si tu veux réussir à l'école, tu vas voir, c'est pas facile. Tu vas devoir beaucoup bosser et c'est pas agréable.
Donc, vous voulez pas dire, moi je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a quand même des gens qui sont naturellement plus joyeux que d'autres. Non, c'est forcément une question d'éducation.
L'éducation y contribue. mais c'est comment cette éducation nous aide à nous connecter à nos émotions. Souvent, je raconte une petite histoire. On a 2 minutes, là, parce qu'elle est...
Alors, vous avez 1h50.
Ça devrait être.
Ça devrait aller.
Mais souvent, je raconte cette histoire. C'est l'histoire du toboggan. J'exprime souvent ça aux personnes que j'accompagne. Je leur dis, voilà, c'est l'histoire d'une mère américaine. Elle emmène son enfant au parc.
Yes.
Exactly. Et donc, elle emmène son enfant au parc, qui a 4 ans. Et il voit un toboggan flambant neuf. Il court près du toboggan et il lève la tête, il voit que c'est où, il regarde sa mère. Et sa mère de lui dire en un américain parfait, génial, vas-y, tu vas voir, monte. Donc il monte, il arrive en haut, il est un peu pris de
peur.
De peur. Et il regarde à nouveau sa mère qui, dans un regard réconfortant, lui dit, vas-y mon chéri, descends, tu vas voir, c'est génial. Et quand il descend, il regarde sa mère, le sourire qui est déjà amorcé, et sa mère lui dit amazing, enfin génial, extraordinaire, tu vois,
let's
comme
go.
tu sais bien faire, et continue. Et l'enfant recommence. Et puis il y a une mère française qui arrive.
Donc lui, il est devenu Marine par la suite.
Alors Marine, c'est s'il a changé de sexe et de prénom. Mais...
Non, Marine.
Mais j'ai bien compris.
Mais... Oui, non, mais vous avez. Là, vous me tendez une perche dangereuse, donc je préfère rectifier.
Et donc.
Vous avez vu, hein, on va être en joie pendant 2 heures avec Robert Zulis, ça va être drôle.
Il y a une mère française, pareil, elle veut faire plaisir à son enfant de 4 ans.
Non, mais
son
prenez
petit garçon.
Une mère autre que française. Il y a assez de déprime en France en ce moment,
mais non,
ça suffit.
Vous allez voir. Et donc, elle emmène son enfant, pareil, pour lui faire plaisir. Et l'enfant arrive près du toboggan flambant neuf. Il regarde en haut et il voit que c'est vraiment haut. Et il regarde sa mère. Et sa mère de lui dire, fais attention, t'as vu comme c'est haut. Parce que si tu tombes, j'ai pas envie qu'on passe toute la journée à l'hôpital, aux urgences. Donc l'enfant, bien sûr, il comprend que c'est dangereux. Il se dit, waouh. Et donc, il est un peu fébrile, il a les mains moites, il commence à monter. Comme le pied est moins alerte, il glisse sur la deuxième marche. Il arrive pas à se retenir parce que ses mains sont moites. Il se cogne le menton et il pleure. Et sa mère, mais ça pourrait marcher avec un père, de lui dire...
Je t'avais dit.
Qu'est-ce qu'il faut faire pour que tu comprennes? Tu vois, je peux pas te faire confiance. Donc tu descends de là. On verra quand tu seras plus grand.
Je vous avais dit de pas prendre une mère française.
Mais parce que il y a quelque chose de culturel aussi dans ce que je dis là. Et donc, forcément, vous voyez que cette petite expérience émotionnelle, elle confronte ces deux enfants.
Mais il avait un gilet jaune, l'enfant?
Pas forcément, je crois pas ce jour-là. Mais il aurait pu. Il aurait limité le danger si ça se trouvait. Mais bon, donc. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que c'est un impact direct sur justement l'estime de soi. C'est-à-dire que cet enfant américain, quand il va revenir au parc, il va jouer avec tous les autres enfants sur d'autres jeux.
Oui,
l'enfant français, il va rester dans son coin et il va regarder en se disant « Oh là là, peut-être qu'un jour j'aurai de la chance de jouer avec les autres ». Alors évidemment, c'est un peu caricatural ce que je raconte. Mais quand vous vivez ça une fois en tant qu'enfant, que ça se répète à l'école parce qu'on vous met à l'écart, que la maîtresse dit à vos parents que vous n'êtes pas bien, que à la maison vous faites gronder parce que du coup l'enfant il veut quand même montrer qu'il existe et il n'est pas gentil avec sa petite sœur, ben vous voyez bien que les expériences émotionnelles sont d'une toute autre nature. Et c'est là où on a besoin des autres quand on est enfant, et même adulte, figurez-vous, c'est que les autres peuvent être une ressource et nous aider à prendre de la distance par rapport à nos émotions pour essayer de construire plutôt des expériences gratifiantes. Parce que ce sont ces expériences gratifiantes qui vont faire que à chaque peur qu'on a ou à chaque colère qu'on a, si on sait les dépasser, on va construire de la joie, construire un bonheur.
Mais c'est ça qui est intéressant dans ce que vous nous expliquez, Robert Zulis, c'est que finalement la joie vient de quelque chose qu'on a dépassé.
Exactement. Mais même, vous savez, parfois on me dit oui, mais la joie contemplative de regarder un beau coucher de soleil, on n'a pas fait d'effort. Si, on a fait d'effort jusqu'à venir. On a peur de ne pas arriver à l'heure parce que si ça se trouve, on va louper le début et c'est dommage. Donc même là, on a des émotions. Et plus on a fait d'effort, plus on s'est levé tôt pour regarder le lever du soleil ou on a attendu tard pour le coucher du soleil.
Mais par exemple, on en parlera demain d'ailleurs. On fera une émission, on recevra quelqu'un qui vient d'écrire un très beau livre sur la tendresse. La tendresse, c'est pas quelque chose qui apporte de la joie de manière assez naturelle?
Ça apporte pas forcément de la joie, ça apporte de la satisfaction. Alors c'est des petites joies.
Et c'est
comme ça aussi que, vous savez, les rues peuvent faire les grandes rivières, et ce sont ces petites joies qu'on sait s'autoriser qui nous aident à construire notre bonheur. Et je trouve que c'est un problème que nous avons dans notre société, c'est d'accepter de regarder ces petites joies et de s'en nourrir comme autant de rues qui pourraient faire grandir notre ruisseau du bien-être. ben je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui ne s'autorisent pas et qui ne sont pas fiers de ce qu'ils font, qui s'imposent une exigence forte, qui ont besoin que ce soit les autres qui leur disent pour vraiment considérer que c'est vrai. Et du coup, on a du mal à s'accorder de la valeur, on a du mal à s'aimer. Et c'est fondamental. Et la joie, c'est une traduction de cela, de ce phénomène qui nous permet de considérer qu'on a de la valeur à ses yeux et aussi aux yeux des autres.
Eh bien, on va se mettre en joie ensemble sur Sud Radio. N'hésitez pas à appeler et puis peut-être à venir nous raconter la dernière fois que vous avez eu une grande joie. 0826 300 300. À tout de suite.
14h, 16h, Brigitte Lahaye, Sud Radio.
En compagnie de Robert Zuilly, je précise, hein, puisque vous venez de parler des parents et des émotions des enfants, hein, vous avez écrit notamment aux éditions Mango plusieurs livres sur les émotions et les enfants. Lola, bonjour.
Oui, bonjour Brigitte, bonjour votre invité.
Robert, vous pouvez m'appeler Robert, Brigitte.
Oui, c'est vrai, super.
Bien sûr.
J'écoutais votre émission. Alors moi, évidemment, comme la plupart des gens, il y a plein de choses, petites ou grandes, qui peuvent m'apporter des instants de joie. Mais il y a un truc qui marche à tous les coups, c'est les animaux. C'est-à-dire que je peux éprouver effectivement une profonde joie et même du bien-être profond dans une relation avec un chien qui me plaît, un âne, un cheval. Et je sais que ça peut choquer, c'est-à-dire que pour moi, c'est quasiment avec...
Pourquoi ça choquerait, vous faites de mal à personne avec...
Non, mais par exemple, je fais partie des rares femmes qui n'éprouvent pas, par exemple, d'émotions profondes face à un nouveau-né. Et pour comprendre ce qu'une femme éprouve face à un nourrisson, il faut que je pense à un chiot. Donc ça, c'est inhabituel.
Ça vous met en joie, au moins.
Nous aussi.
Et nous aussi.
Oui, donc voilà, donc ça fait partie. Ça, là, je sais que c'est un mécanisme qui marche quasiment à tous les coups. Ce qui m'apporte aussi, les animaux m'apportant aussi les plus grands.
Oui, parce que si on vous montre la photo du nouveau-né et que vous n'êtes pas émerveillé, vous allez les rendre très très tristes ou les mettre en colère. Donc vous avez raison, pensez à un chiot et puis vous serez en joie et tout le monde sera content.
Et je donnerai le sens. Alors après, j'étais un peu étonnée par ce que disait Robert. Quand vous dites que les sentiments de joie vont fatalement nécessairement avec de l'effort. Alors, je comprends que ça fonctionne effectivement dans pas mal de cas, exemple sportif, machin, tout ça. Mais en revanche, je trouve que ça fonctionne quand même pas toujours. Il n'y a pas le bonheur, la joie, pas forcément.
Mais j'entends.
Avec le mérite et le.
Non,
et
mais Lola, j'entends ce que vous dites parce que vous le savez, moi aussi j'aime beaucoup les animaux. Et c'est vrai que si je me mets à caresser ma chienne, j'ai l'impression que ça me met en joie et pourtant il n'y a pas d'effort. Hein.
C'est ça.
Oui.
C'est un cadeau.
Oui, c'est un cadeau.
Parce que cette joie-là, c'est un partage. Et c'est le moment que vous offre ce partage, et la joie va disparaître quand vous arrêtez de partager. Ce que je suis juste en train de dire, c'est que les joies qui perdurent au-delà de l'événement, ce sont des joies qui ont suscité en vous des efforts.
D'accord.
Qui vont laisser une trace. C'est comme l'enfant qui passe le bac, qui a bossé comme un dingue, qui s'en tire avec une mention. Ben, au mois de septembre, à la rentrée, il pense toujours avec plaisir à son bac. Celui qui a eu le bac au rattrapage, qui est quand même content, ben, à la rentrée, ça ne crée pas tellement d'émotions. Vous voyez,
oui.
C'est oublié. C'est juste ça. Et c'est une loi de proportion.
C'est-à-dire qu'à la joie du résultat s'ajoute le sentiment de mérite, quoi.
Alors, c'est pas ça, je dirais que c'est une notion judéo-chrétienne. C'est pas tant le mérite. C'est tant les efforts que nous avons produits pour réussir. Et c'est juste ça. Après, qu'on dise c'est du mérite, c'est une valeur qu'on veut accorder pour donner du sens. Mais moi, je vous parle de loi et de mécanique. L'intensité de l'émotion est proportionnelle, dans ces cas-là, à l'effort qui a été investi.
Mais elle peut arriver sans l'effort.
Oui, elle peut arriver sans effort, dans la mesure où on est en train de vivre quelque chose qui nous fait plaisir et qu'on partage, mais dès qu'on arrête de partager, la joie s'arrête.
Oui, sauf qu'on a fabriqué de l'ocytocine et ça nous a fait du bien pour la santé.
Bien sûr, mais
ça ne s'arrête pas complètement quand même, notre organisme en profite.
Ce sont des plaisirs qui n'ont pas la force régénératrice qu'ont les plaisirs associés aux efforts, parce que ça construit vraiment de l'estime de soi. Quand vous avez fait un gros effort pour réussir quelque chose, vous vous dites, voilà, j'y ai contribué, j'ai mis quelque chose de moi. Quand vous partagez un bon verre de vin avec quelqu'un que vous appréciez, c'est pas tellement difficile, c'est un bon moment, c'est très agréable.
Mais
c'est tout, voilà. Et quand je dis ça, c'est pas un jugement de valeur, c'est ni bien ni mal.
Oui. Et alors, effectivement, alors, moi, je persiste, par exemple, dans les relations amoureuses. Je suis quelqu'un qui n'arrive pas, et ça, je sais que Brigitte donne souvent de grands conseils très, très judicieux sur le travail, les efforts qu'il y a à faire pour préserver une relation amoureuse, pour la construire, pour la retaper éventuellement quand ça commence à flancher. Et moi, j'ai jamais été capable de ça, quoi. C'est vraiment.
Et du coup, elles durent, vos relations amoureuses?
Bah non.
Certaines, si.
Il
m'est arrivé d'avoir des. Mais dès que ça décline, je considère que bon, mais c'est fini et que.
Vous faites pas d'efforts.
Je crois pas vraiment, quoi. C'est-à-dire, j'ai l'impression que c'est fini, que je peux rien y faire. De la même façon que les rencontres amoureuses, et j'ai eu beaucoup de chance jusqu'à maintenant, ont toujours été comme un cadeau, effectivement. Ce n'est pas une question de mérite, c'est vraiment. Voilà, quand c'est fini, j'ai l'impression que je n'ai pas de prise sur ça, que c'est pas parce que je vais bien faire, que je vais être récompensé de mes efforts et que ça va rétablir.
Bien sûr.
Mais tout dépend aussi de ce que vous attendez d'une relation avec quelqu'un. Si vous attendez rien de particulier, juste.
Justement, j'attends que ça soit intense, que ça soit vif.
Ah oui, mais ça ne peut pas. Sur la durée, ça.
Je sais, j'entends bien ce que vous dites régulièrement, Brigitte, et qui est complètement compréhensible et défendable. Mais moi, j'arrive pas à le pratiquer, quoi.
Non, mais c'est normal. Si ce que vous attendez, c'est l'intensité, obligatoirement, au bout d'un certain nombre de temps, l'intensité diminue et il est impossible de revibrer.
Ou alors, faut trouver des situations qui vont faire accroître l'intensité, et c'est là où on en vient à des comportements addictifs, parce que non, mais pas vous. Dans certains cas, pour faire durer les choses, on va commencer à vivre des expériences un peu exaltantes qui vont nous donner l'illusion de l'intensité du plaisir des premiers jours.
Mais alors, puisque vous aimez les animaux, je suppose que vous avez des chiens, pourquoi vous ne verriez pas la relation avec un homme comme une relation avec un chien, c'est-à-dire une relation qui est aussi basée sur l'affect et l'amitié?
Ah mais c'est ce que j'ai le temps que je vis la chose avec un compagnon, mais je vous dis, à partir de là, j'ai le sentiment que, ou moi, mon sentiment, mon ressenti n'est plus aussi fort, ou celui de l'homme avec qui j'étais.
Mais pourquoi c'est plus naturel après de faire des efforts pour vous? C'est quoi? Qu'est-ce qui vous...
J'ai le sentiment que c'est pas possible, ça ne servira à rien. Voilà, j'ai l'impression que ça ne peut pas me rendre ce que j'aimais trouver dans cette relation.
Oui, vous aimez pas quand c'est trop tiède, ça a besoin.
Ça n'a pas. Alors, ça veut pas dire que je vais me fâcher, que
Se
sépare, ça va être douloureux. D'ailleurs, les séparations sont toujours douloureuses, même lorsqu'on les induit soi-même. Mais je suis restée très amie avec d'anciens compagnons parce que, évidemment, que le casting avait été fait pas par hasard, c'est-à-dire qu'on avait vraiment beaucoup de choses en commun et qu'une relation tendre, amicale peut durer aussi, même après l'amour, quoi.
Oui, mais c'est votre fonctionnement et visiblement vous n'en souffrez pas, donc on n'a pas.
Oui, c'est un bon moyen de contrôler les choses et
de ne pas. Il y a, comme on dit, à partir du moment où il n'y a pas souffrance, il ne faut pas essayer de changer son comportement. Merci beaucoup Lola, en tout cas. Et puis, aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous offrir un séjour d'une semaine en demi-pension dans un logement pour 4 personnes. C'est donc dans un club Bellambrade, soit à la mer ou à la montagne. Donc, vous appelez le 0826 300 300 et on fera gagner le 7e appel pourra gagner ce séjour Bellambra. On se retrouve dans un instant.
Brigitte Lahaye, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News.
Eh bien, nous retrouvons Jean-Luc Romero. Je rappelle que vous êtes créateur de Élu contre le sida, et c'est peut-être de cela dont on va parler, il me semble, aujourd'hui. Bonjour Jean-Luc.
Bonjour Brigitte, bonjour à votre invité.
Robert Zwilly qui est avec nous.
Alors ce jeudi, bien oui, vous avez raison, à l'hôtel de ville de Paris, en présence notamment de la maire de Paris, de la ministre de la Santé, se déroulent les 23e états généraux d'élus locaux contre le sida, bien sûr pour mobiliser les élus, mais aussi la société, sur la nécessité de tout mettre en œuvre pour aboutir à la fin du sida. Oui, chère Brigitte, un monde sans sida, c'est aujourd'hui possible. Alors l'ONU Sida a même fixé la date de la fin de la pandémie à 2030, c'est-à-dire dans un peu plus de 10 ans.
Oui, ce qui est relativement bientôt, quoi. Enfin.
Bah, c'est presque demain. Vous imaginez, Brigitte, que des générations pourraient naître à partir de cette date sans qu'aucun enfant ne soit porteur du VIH. Alors c'est un rêve fou, hein, notamment pour celles et ceux qui, comme moi, comme vous, ont connu le début de la pandémie et ont vu mourir tant de proches dans des souffrances qui étaient indescriptibles. Et puis souvent aussi, on l'a oublié, rejeté parfois même par leur famille. Alors pour en arriver à ce monde sans sida, il y a quand même des étapes. D'abord, il y a une étape intermédiaire qui est intéressante à connaître. Alors il faut que 90% des personnes séropositives soient dépistées d'ici 2020, c'est-à-dire dans un peu plus d'un an. Donc on ne peut que conseiller aux auditeurs de Sud Radio de se faire dépister. Le sida, c'est pas toujours les autres, ça peut être soi-même.
On sait aujourd'hui encore combien il y a de personnes qui seraient séropositives sans le savoir.
À peu près 25 000 personnes.
Ça diminue quand même, hein, semble-t-il.
Ça reste un peu quand même stable, parce que c'est vrai qu'il manque une prise de conscience un peu générale. Et donc voilà, parce que l'objectif, il faut le tenir. 90%, parce que si on veut cette France sans sida d'abord, avant ce monde sans sida, il faut ces 90% de personnes séropositives dépistées, parce qu'après, eh bien, il faut que ces 90% de ces personnes soient mises sous traitement. Et en France, tout le monde peut bénéficier d'un traitement, quel que soit votre statut, même si vous êtes étranger sans papier. Et puis, bien sûr, que 90% de ces personnes traitées soient sans charge virale. Alors, on pourrait même rajouter que 90% des discriminations qui frappent les personnes touchées est enfin disparu, parce qu'on sait que les discriminations qui touchent les homosexuels, qui touchent les travailleuses du sexe, qui touchent un certain nombre de femmes, sont évidemment un obstacle à la fin du sida. Alors, ce qu'on peut dire, et ça peut étonner, parce que les gens ne le savent pas tant que ça, c'est qu'une personne qui est mise sous traitement devient vite indétectable, c'est-à-dire qu'elle ne peut plus infecter. Alors, on ne sait pas assez, mais la plupart...
Oui, mais c'est vrai, moi je le sais bien sûr, Jean-Luc Romero, mais je crois que peu de gens le savent. Vous le saviez, Robert Zulli? Non.
Non. C'est vrai
Donc, la plupart des personnes séropositives qui connaissent leur statut et qui sont sous traitement, il faut bien sûr qu'elles soient sous traitement depuis au moins 100 mois, ne peuvent plus infecter. Alors, ça fait dire, non sans raison, mais ça va peut-être faire sursauter vos auditeurs, et c'est le professeur Rosenbaum qui dit ça, l'un des co-découvreurs du VIH, que le meilleur moyen de ne pas attraper le VIH est de coucher avec une personne séropositive sous traitement et sans charge virale. Ça peut paraître provocateur, mais c'est aujourd'hui totalement vrai.
Oui, mais enfin, c'est quand même très provocateur.
Provocateur, mais comme on sait que comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, que 25 000 personnes vivent avec ce virus sans le savoir, ces personnes-là, elles infectent, alors qu'une personne séropositive qui le sait, qui est traitée, ne peut plus infecter. Et c'est important, justement, quand on parle de discrimination, que chacun le sache.
Oui, c'est vrai. Et vous avez raison, on ignore totalement. De toute façon, c'est bientôt la journée mondiale de lutte contre le sida, hein, c'est le 1er décembre, si je ne m'abuse,
ouais,
et on en parle, on va pratiquement plus en parler comme chaque année.
Alors, on va en parler le 1er décembre, comme vous le dites, et puis après, on va encore oublier, alors que ces informations sont quand même importantes pour chacune et chacun d'entre nous. Hein. Mmh. Donc, d'ailleurs, on le voit, hein, sur le papier, aujourd'hui, tout est possible, ce monde sans sida, sauf que quand même, il y a un hic, c'est la pression politique n'est pas là. S'il n'y a pas de pression politique, ça veut dire qu'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas le nerf de la guerre. Alors la France, elle a pourtant choisi d'aller plus loin que les 3x90 de l'ONU SIDA, elle a choisi les 3x95. Sauf qu'aujourd'hui, elle n'atteint que 2 de ces 3 objectifs, et en plus, ce n'est plus le pays le plus vertueux dans la lutte contre le sida, notamment au niveau international. Avant, on était le pays européen qui était le plus engagé, qui aidait les pays les plus pauvres à accéder au traitement. On a largement été distancé par la Grande-Bretagne. Vous voyez que parfois, même en plein Brexit, ils arrivent à faire des choses bien. Alors l'année prochaine, il va y avoir en France, et c'est peut-être là une grande occasion, une réunion internationale du Fonds mondial. Alors le Fonds mondial, c'est lui qui répartit un peu les fonds, notamment pour les pays les plus pauvres. Il va avoir lieu en France, donc c'est une opportunité exceptionnelle. Il faut vraiment que la France en profitent pour s'engager fortement. Vous savez, on a souvent été à la pointe dans le combat du sida, notamment sous les présidents Chirac et Lula. Il faut renouer avec ça, parce que quand même, depuis le début de la pandémie, c'est quand même plus de 40 millions de personnes qui sont mortes. Et ce qui est pire, c'est que chaque année, il y a encore aujourd'hui 1 million de personnes qui meurent du VIH, c'est-à-dire 2 500 personnes par jour. Vous imaginez, alors que ces morts ne devraient plus exister. On a les moyens de les traiter. Ce sont des coûts qui sont tout à fait raisonnables. Donc c'est quelque part un peu criminel de laisser ces personnes mourir alors que nous avons les traitements, alors qu'on a la solution pour leur permettre de vivre, ou en tout cas, parce qu'on sait que la dé que le VIH, faut pas faire croire aux auditeurs que c'est si facile que ça, c'est souvent pour beaucoup de la survie. Donc c'est donc une mobilisation citoyenne qui peut peut-être faire entendre aux responsables politiques que ce beau défi peut être gagné, et j'en termine là, ce dont nous allons bien sûr parler aux états généraux de LCS jeudi à la mairie de Paris dès 16h. Si certains de vos auditeurs sont intéressés, ils peuvent nous rejoindre. Il suffit juste d'envoyer un mail à info@elcs.fr. Et oui, parce qu'un monde sans sida, c'est possible, mais ça dépend de vous, ça dépend de nous.
Eh bien, merci Jean-Luc Romero. Et puis, c'était important de toujours donner ces informations, parce que c'est vrai qu'il n'y a plus beaucoup de circulation de ces infos dans les médias. Merci Jean-Luc Romero.
Merci, à la semaine prochaine.
Au revoir. On a notre gagnant Jean-Jacques qui est avec nous. Bonjour Jean-Jacques. Non, on l'a pas encore. Bon, s'il faut savoir ce que vous voulez. Est-ce qu'on a Catherine ?
Oui, bonjour Brigitte, Robert et Sud Radio.
Bonjour Catherine.
Bonjour Catherine.
Vous avez une voix très joyeuse.
Oui, avec votre émission. Alors, c'est vrai que je suis plutôt d'une nature optimiste. Et j'avais deux questions. C'est vrai que, les optimistes ont peut-être tendance plus à la joie. Avec, bien sûr, comme a dit Robert, je suis tout à fait d'accord, dans des périodes difficiles où, à force de, dirons-nous, de comprendre mes difficultés, je suis arrivée à avoir une joie pleine, puisque j'ai résolu mes nœuds émotionnels, qui sont les autres que la joie. Et donc,
et grâce à Robert Zwilly, alors je suis sûre.
Grâce à vous Brigitte, parce que oui. J'interviens depuis quelques temps, je vous écoute depuis plusieurs années, parce que j'ai fait le choix de moins travailler, donc j'ai de la disponibilité pour avancer pour ma vie personnelle, parce que j'ai compris qu'il fallait que je pense à moi après un métier dans le médical. Voilà. Et donc grâce à vous et grâce à Robert bien sûr, et je vais lire son livre.
C'est gentil. En tout cas, il y a une chose qu'il faut bien sûr bien observer avec la joie. Il faut pas non plus être dans le déni de la réalité. C'est-à-dire que la joie, c'est pas un objectif en soi, c'est une conséquence. Et en termes philosophiques, c'est important cela, parce que ça veut dire qu'on n'est pas dans une quête. Parce que plus vous vous mettez dans la quête de la joie, plus vous vous mettez dans la difficulté de ne pas y arriver. Et ça, c'est parfois des paradoxes auxquels je peux être confronté, c'est-à-dire des gens qui ont des niveaux d'exigence tels qu'ils s'interdisent de profiter des bons moments et de reconnaître la valeur qu'ils peuvent accorder à des efforts qu'ils ont consentis pour réussir quelque chose. Mais il y a aussi une autre chose, c'est que bien sûr, la joie, c'est une face seulement de la pièce. De l'autre côté de la pièce, il y a de la tristesse. Et la tristesse, ce sont des souffrances auxquelles nous sommes confrontés et contre parfois lesquelles on ne peut pas lutter. C'est-à-dire, on n'a pas les moyens d'agir. S'il se passe quelque chose que vous subissez, contre lequel vous n'avez pas de prise, c'est forcément une tristesse subie et ça fait mal. Après, il y a des choses que l'on vit qui génèrent de la tristesse, mais dont nous sommes co-responsables.
Alors, tout à fait. Si je peux intervenir,
bien sûr,
parce que l'autre revers de la pièce, donc je suis plutôt d'une nature optimiste, mais effectivement, j'ai effectivement encore des souffrances et qui font partie de ma vie comme tout le monde, mais j'ai par exemple, et c'est pour ça que je voulais intervenir aussi, c'est que par exemple, je n'ai pas, donc j'ai écouté les émissions de Brigitte de la semaine passée, très intéressantes, et c'est toujours dans tout le suivi, où justement, je n'ai pas les codes de séduction. Je ne suis pas une séductrice. Enfin, je n'ai pas appris, je ne sais pas faire. J'ai beaucoup, beaucoup travaillé, milieu cartésien, etc. Donc, je suis sur cette démarche de changer. Et justement, j'ai eu un monsieur qui s'intéressait à moi, qui m'a dit quelque chose de sympathique. Et je n'ai pas compris si c'était une une forme de, pas le mot drague, je n'aime pas, mais une façon de me montrer qu'il s'intéressait à moi, ou si c'était simplement un compliment.
Bon, vous savez, un homme qui fait simplement un compliment, Catherine, c'est assez rare. Hein.
Ah bon? D'accord, bah, voyons, voyez, Brigitte. Les codes de... Alors, je ne sais pas. Mais il n'était pas tout seul, hein. Il l'a dit.
Mais vous jetez le discrédit sur l'homme en disant ça, voyons. Il y a des hommes qui peuvent faire des compliments aux femmes sans avoir forcément d'arrière-pensée, qui sont juste en sincérité
bien sûr, dans l'instant présent.
Bien sûr,
mais c'est
vital de réussir à le faire, ça. Non,
Robert Zulli, en écoutant le témoignage de Catherine, je suis sûre que vous êtes d'accord avec moi. C'est que la question que se pose Catherine prouve déjà la réponse. C'était forcément. C'était pas un compliment tout à fait anodin.
Gratuit.
Voilà.
Alors,
vous êtes d'accord?
Oui, bien sûr.
Oui, parce qu'en fait, la réponse que je lui ai donnée, et c'est ça qui, effectivement, j'ai eu l'impression d'être dans la joie, et on en revient au sujet d'aujourd'hui, je lui ai répondu, et puis par rapport à l'émission d'hier, qui était votre invité sur le fantasme, je lui ai répondu, ah ça, mais de façon joyeuse, alors c'est peut-être pas le mot joyeuse, vous allez m'aider tous les deux.
Vous êtes gay, ça fait plaisir, de toute façon,
répondu,
un compliment.
Je lui ai répondu, oh ben ça c'est ton fantasme. Et je ne sais pas si c'était gentil.
Alors, c'était quoi le compliment qu'il vous avait fait ?
Eh bien, comme quoi, il y avait une façon de dire, alors c'était la phrase que vous aviez dit avec votre invité l'autre fois, où il y avait une dame qui était intervenue qui disait, les hommes prennent et les femmes veulent prendre maintenant. La place des hommes qui prennent, qui veulent prendre une femme, c'était un compliment du genre, je te prendrais bien, voilà, enfin, un genre comme ça, mais bon, moi, c'est vrai que j'ai pas l'habitude
d'accord,
de ce mot.
D'accord, donc c'est ce qu'il vous a dit, je te prendrais bien, enfin, on va simplifier.
Oui, mais de façon très correcte, hein, c'était
Oui. C'est pas stupide d'avoir répondu, c'est votre fantasme, sauf s'il vous plaisait.
D'accord, ok.
S'il ne vous plaît pas, vous vous en sortez par un peu d'humour en disant oui, ça c'est ton fantasme. Mais si il vous plaît, il faut avoir une réponse plus ouverte et plus accueillante, oui.
Oui, parce que forcément, en lui disant c'est ton fantasme, vous le renvoyez à son fantasme qui n'est pas le vôtre.
Et qui n'est pas le passage à l'acte.
Et c'est de la mise à distance.
On est bien d'accord. Dans ce cas-là, c'était quand même joyeuse ma façon de lui parler ou pas?
Ça dépend. Vous auriez aimé que ça aille plus loin ou pas?
Ben je me dis, je sais pas, je suis pas séductrice. Et je me dis, pourquoi pas, si ça se présentait à nouveau dans cet état d'esprit.
Non, mais c'est Catherine.
Mais je sais pas.
Est-ce que vous auriez eu envie, éventuellement, de prendre un verre avec lui?
Pourquoi pas?
Bon, donc il fallait pas lui répondre, c'est ton fantasme. Parce que quand vous dites, c'est ton fantasme, ça veut dire, il n'y a pas de passage à l'acte.
Bien sûr.
Alors, ça ne veut pas dire que parce que vous allez prendre un verre avec lui, vous allez forcément être dans le passage à l'acte.
Mais
ça veut dire
que
vous... Oui, mais c'est ça qui est important. C'est-à-dire qu'il y a une notion par rapport au bonheur qui est, quelle est la faculté qu'on s'accorde à être heureux? Et est-ce qu'on s'autorise à être heureux? Et là, au fond... quelque part, moi j'entends, je me suis pas autorisé totalement quelque chose. Et ça parle des restrictions que vous vous imposez. Et forcément, ça fait écho à des émotions qui sont les vôtres. C'est-à-dire, vous partez du principe, vous, que vous n'êtes pas une séductrice. Donc, si vous le séduisez, ça veut dire quoi?
Eh bien, vous allez nous répondre dans un instant, Catherine. On se retrouve tout de suite sur Sud Radio, bien sûr. Et vous pouvez nous appeler également au 0826-300-300. On a notre gagnant aussi, c'est plus la peine d'appeler pour le jeu.
Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes.
14h, 16h, Brigitte Lahaye, Sud Radio.
Avec Robert Zulli, notre docteur en émotion, nous parlons de la joie aujourd'hui et on essaye en tout cas de vous rendre plus joyeux. N'hésitez pas à nous appeler au 0826-300-300. On va retrouver Catherine dans un instant qui se dit pas séductrice, mais est-ce qu'elle est séduisante? On verra. Mais d'abord, on va donner la parole à notre gagnant du jeu Bellambra. Bonjour Jean-Jacques.
Oui, bonjour Brigitte, vous m'entendez?
Je vous entends, absolument.
Très bien,
absolument.
Parce que moi je vous écoutais, et donc c'est la magie de la technique moderne.
Eh bien
voilà.
Oui,
je vous remercie vraiment beaucoup.
On arrive même à se parler.
Oui, merci beaucoup, j'y croyais pas. Je me disais, j'ai même pas pensé au 7 nains, mais je suis le 7e.
écoutez Jean-Jacques, il faut croire à votre chance. Ça vous met en joie, j'espère.
Je suis le nain joyeux, actuellement. Puisque c'est dans le thème d'aujourd'hui.
Bon, vous savez ce qu'on dit des nains.
Parce que j'étais un ancien prof, timide, alors là c'est maladif chez moi. Et puis Hachoum,
tant que vous n'êtes pas grincheux, ça va.
Alors, j'ai rayé grincheux et simplet.
Vous êtes joyeux, donc. Je crois qu'il y a un nain qui s'appelait Joyeux, il me semble.
Je suis joyeux pour ma compagne ou pour d'autres personnes.
Donc, vous avez Blanche-Neige avec vous, alors.
Ah ben voilà, c'est Brigitte, alors.
Bon, en tout cas, vous l'avez gagné, ce séjour donc d'une semaine en demi-pension dans un logement pour 4 personnes. Alors, vous choisirez, il y a 58 clubs Bellambra. Vous choisirez plutôt la mer ou la montagne?
Alors là, c'est compliqué, parce que j'aime les deux.
Il faudra choisir.
Je leur laisserai la priorité, Brigitte.
D'accord. Oui. Bon. En tout cas, vous verrez, il y a des animations, il y a du sport, il y a des activités pour tous. Enfin, c'est vraiment formidable. C'est Club Bellambra. Eh bien, il vous reste plus qu'à choisir et puis à trouver 3 personnes pour vous accompagner. Voilà. Vous ne pourrez pas emmener les 7 nains, hein. Je suis désolée, Jean-Jacques.
D'accord. Il y aura un retour probablement. Soit j'appellerai les anges, soit je mettrai un petit mot à votre antenne à Paris.
Ben merci, voilà. C'est gentil. Ou bien vous nous envoyez une petite carte, ça se fait encore.
Hein. Est-ce que je peux abuser de votre temps? Je voulais dire aussi, moi je ne suis pas séducteur, mais j'avais des amitiés plutôt féminines, sans arrière-pensée, parce que j'avais été élevé dans une famille assez de garçons. J'avais eu l'université et l'école, souvent. Enfin, l'université, ça s'est arrangé parce que dans un amphi de 300, il y avait 150 filles.
Ah oui.
Voilà. Mmh. Et donc, par contre, mon ami m'a dit fais attention, parce que toi, tu n'émettes peut-être pas de messages amoureux, mais les autres peuvent les recevoir comme tels. Et elle m'a mis justement la puce à l'oreille, comme quoi je n'étais pas égocentré sur ce que je donne aux femmes plutôt que aux hommes.
Voilà. D'accord. Eh bien, merci en tout cas, Jean-Jacques, de ces confidences. Merci beaucoup.
Merci, j'appellerai plus longuement, parce que j'ai déjà Christophe Médicis qui m'avait bien coaché. Merci infiniment.
D'accord. Eh bien, écoutez, il n'y a pas de souci. Vous êtes le bienvenu quand vous voulez sur Sud Radio, mais pour l'instant, profitez de ce séjour Bellambra. On retrouve Catherine. Catherine, donc, excusez-nous de ce petit moment de...
Pas de souci.
Cet intermède.
Que des solutions.
Hein. Bon, alors, est-ce que je me souviens plus de la question que vous lui aviez posée, Robert Zully.
C'est-à-dire qu'à partir du moment où...
Ah oui, qu'est-ce qu'elle craignait aller prendre un verre.
Oui. Si vous avez dit oui, qu'est-ce que vous seriez dit?
Le mot oui, c'est-à-dire que ça m'a un peu surpris déjà. Bonne question. C'est-à-dire que déjà je suis en joie, je suis contente et joyeuse de savoir que je peux plaire. Donc ça, c'est le côté positif de la pièce, comme on dit.
Mais
effectivement, l'autre partie, qu'est-ce que j'aurais dit? Il aurait fallu que je rebondisse. Et comme je suis pas très séductrice, si, il aurait peut-être fallu, comme dit Brigitte tout à l'heure, j'ai de l'humour, il faut que j'apprenne l'humour. J'ai de l'humour, j'apprends l'humour, et j'aurais dû répondre, donnez-moi la réponse, je suis là pour, je ne sais pas exactement.
mais je pourrais pas être derrière vous tout le temps, Catherine.
C'est ça, c'est
Je vais vous mettre une oreillette, hein, je vais vous guider,
Mais Brigitte vous a posé, elle a fait un commentaire tout à l'heure. C'est quoi la différence que vous faites entre séductrice et séduisante?
Alors, j'arrive à la faire, la différence. C'est vrai que je peux être séduisante et j'apprends à le comprendre, l'intégrer et me rendre compte que je peux plaire, effectivement. Ce qui était mélangé à une période, il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Et séductrice, dirons-nous, vous voyez, répondre à une question comme ça, dire oui.
Mais je crois que vous faites une erreur, Catherine. C'est pas nécessaire d'être séductrice. Vous êtes séduisante. Bon, donc ça veut dire que il y a des hommes qui vont venir vers vous, qui vont vous faire un compliment. Il y a une réponse très simple, c'est de dire merci.
C'est de l'accueillir.
Et à partir du moment où vous dites merci avec un sourire, vous ouvrez la porte. Et puis si l'homme est intelligent, il vous proposera autre chose.
Ah, bravo, merci à vous, parce que j'avance grâce à vous, oui. Ça paraît simple, mais c'est des choses de base, et effectivement, je les avais pas intégrées encore.
Et alors, si vous voulez être un tout petit peu séductrice, quand cet homme vous dit « je vous prendrai bien », enfin bon, il l'a pas dit de manière aussi cavalière,
non, pas
hein,
cette façon,
mais donc vous répondez « merci », et puis vous ajoutez juste un compliment, mais vous êtes bien sympathique, ou enfin, vous voyez, quelque chose d'assez neutre. Hein, vous ne commencez pas à dire moi aussi je vous prendrais bien, hein, parce que là, en effet, c'est un petit peu...
Là, vous ne seriez plus une séductrice.
Oui, oui, d'accord.
Mais voyez, vous dites merci et puis vous faites un compliment. Voilà, et à partir de ce moment-là, c'est engagé.
Ok, bah écoutez, c'est des bases, mais parce que j'ai été plutôt moi sur Internet, donc Internet ça va plus vite les engagements. Vous voyez les nouvelles méthodes de rencontre, Internet, on sait qu'on est là pour ça. Dans des clubs de sortie comme de célibataires qui existaient avant Internet, j'étais que dans ce principe-là, mais pas dans la vie réelle du milieu où tout le monde est là. On ne sait pas si les gens sont libres, sont. Enfin, vous voyez, dans le quotidien, je n'étais pas dans ce quotidien pour rencontrer quelqu'un. J'étais plutôt sur des principes où les gens, je savais qu'ils étaient célibataires.
Mais ça protège hein, Internet d'une certaine manière, parce qu'en effet, il n'y a pas à réagir immédiatement. Hein. C'est finalement c'est l'immédiateté qui peut-être vous inquiète un peu.
Oui, c'est tout à fait ça, Brigitte. Vous avez touché juste.
Oui, et de ne pas savoir à qui vous avez affaire. Mais c'est pas parce que quelqu'un est en couple qui ne peut pas tenter de vous séduire, c'est pas parce qu'il va tenter de vous séduire qu'il veut forcément passer à l'acte aussi.
D'accord.
Et ça, c'est à vous de le découvrir, d'accepter de prendre ce risque. Mais c'est sûr qu'en lui disant « c'est votre fantasme », vous vous préservez de toute déception potentielle. Et c'est ça qui est un peu dommage.
Oui, oui, c'est pour ça que je l'ai dit de façon joyeuse en plus, parce que j'ai une nature, vous voyez, mais derrière cette joie se cache, comme vous avez dit, le revers de la pièce, la souffrance ou la tristesse
que je dois préserver. Et oui.
Oui, vous vous protégez en lui disant ça. Alors vous le dites de manière joyeuse pour ne pas être blessante, mais en même temps, le fait de le dire de manière joyeuse, c'est le renvoyer encore plus dans les cordes, parce que vous moquez un petit peu.
Et ça peut être interprété comme en plus elle se moque de moi. Vous imaginez ça?
Oui, non, je m'imagine pas. Non,
alors je ne crois pas que ce soit votre intention.
Non, mais effectivement, non, hein, tout à fait. Il faut que je travaille ça.
Mais ça va y aller, vous avez déjà fait un pas énorme, Catherine.
Eh bien, grâce à vous, merci à vous, je vous embrasse.
Mais vous me mettez en joie, Catherine, merci beaucoup. Voilà, je prends les compliments. Merci à vous. Alors, Robert Zully, voilà la devinette du jour. Alors, c'est durant la nuit de noces, hein, et puis c'est le jeune époux, ils viennent de faire l'amour, et il demande à son épouse, ma chérie, combien d'hommes as-tu connu avant moi? Et il y a un grand silence qui suit. Alors, pourquoi? Est-ce qu'elle s'est endormie? La réponse après les infos, voilà. Et puis bien sûr, vous pouvez continuer à nous appeler, parlez-nous de ce qui vous met en joie, 0826 300 300.
14h, 16h, Brigitte Lahaye, Sud Radio.
Robert Zully est avec nous, vous travaillez sur les émotions. Alors, c'est toujours intéressant de rappeler un peu votre parcours, Robert Zully, à ceux qui nous écoutent, parce qu'au départ, vous étiez plutôt dans le travail, chef d'entreprise.
Dans le monde de l'entreprise, oui.
Etc. Et c'est tout doucement, comme ça, que vous vous êtes intéressé à nos émotions et que vous avez mis en place donc une lecture qui est vraiment la vôtre. Hein. Moi, j'entends évidemment beaucoup d'invités qui sont thérapeutes et qui parle des émotions, mais vous avez une lecture, j'allais dire presque rationnelle, de quelque chose qui est totalement irrationnel.
Oui, qui apparaît irrationnel. Et ça, ça m'est venu de mes premières interventions en entreprise, quand il se passait des choses qui rendaient compliquée la vie des salariés, et je leur demandais de me raconter comment ils le vivaient. Et je me suis rendu compte que la plupart d'entre nous avons beaucoup de mal à exprimer les choses par rapport à notre ressenti. Parce que tout de suite, notre ressenti nous fait toucher du doigt quelque chose d'intime en nous. Parce que quand on ressent de la colère, c'est puissant. Et on n'a pas envie de se montrer vulnérable aux yeux d'un tiers, et aux yeux de son management, aux yeux de l'entreprise. Et je me suis rendu compte que, donc du coup, on était assez démunis face à nos émotions, et comme on ne savait pas nommer les choses et les reconnaître, on mélangeait un petit peu tout. Hein, vous savez, on ne fait pas attention de ce qu'est la différence entre un sentiment, une sensation, un état, une émotion, un ressentiment, et tout ça, ça peut être aussi des ressentis. Donc c'est un paysage qui est assez obscur. Et je me suis rendu compte que finalement, en mettant des mots dessus, en étant dans une approche effectivement rationnelle de l'émotion, parce que l'émotion, c'est une énergie, c'est comme une énergie électrique. Quand vous avez une coupure de courant, un choc électrique, vous avez une coupure de courant et c'est le noir. Mais avec nos émotions, c'est pareil. Quand il y a un choc émotionnel, vous avez une coupure de courant émotionnel et vous vous retrouvez dans le noir, qui est l'équivalent, qui s'appelle la sidération. Mais vous pouvez pas rester comme ça. Il faut rebrancher le courant. Mais comme on est tous des bricoleurs de nos émotions, ben on ouvre l'armoire électrique de nos émotions.
Et on met le fil rouge avec le fil bleu.
Et voilà. Et on sait
explose.
Pas.
chose.
Et ça crée de la douleur, mais on se dit, bon allez, c'est pas grave, ça tient, c'est bon, et on accumule comme ça.
Et on se fait mal.
Et oui, mais ça, c'est pas une fatalité en fait. Il suffit de comprendre que l'émotion, c'est un processus, et que ce processus, il a un début et une fin. Et que c'est pas quelque chose qui reste en l'état, et qu'on garde dans un sac à dos, et qui devient ce sac à dos de plus en plus lourd au fur et à mesure où nous avançons. Et c'est ça qui m'apparaît assez important, c'était de soulager les personnes, parce que une fois qu'on nomme les choses, c'est tellement plus facile de s'en débarrasser, parce qu'on les a reconnues, on sait à quoi les attribuer, et on peut agir. Hein.
Alors, ma devinette, juste après la nuit de noces, le jeune époux demande à son épouse « Ma chérie, combien d'hommes tu as connus avant moi ?» Et il y a un grand silence qui suit. Pourquoi ? Vous avez une réponse, Robert Zulli ? Alors,
en fait, j'ai plusieurs réponses possible en fonction du profil émotionnel.
Essayez
de l'homme.
Essayez pas de copier sur mon...
Non, je voyons, Brigitte. Alors, on n'est pas à l'école. Non mais on n'est pas à l'école. Vous avez face à vous des adultes, vous le savez, ça. Donc,
pas toujours.
Ah bon. Alors, si l'homme a comme émotion dominante la peur, parce qu'on a tous une émotion dominante, en fait, si c'est la peur son émotion dominante, il a profondément peur qu'elle lui réponde oui et qu'il y en ait eu beaucoup. Et donc, il est dans l'attente anxieuse de cette réponse en se disant pourvu qu'elle n'en ait pas eu.
Mais pourquoi elle met du temps à répondre ?
Parce qu'elle sait qu'il a peur et qu'elle n'ose pas lui dire qu'elle en a eu beaucoup.
Oh là là.
Si c'est la colère, l'émotion de son mari, il va se dire mais c'est injuste que je ne sois pas le premier. Et c'est pas normal qu'elle en ait eu d'autres et que peut-être elle les a aimés plus que moi. Et donc, comme elle n'ose pas le vexer, elle va patienter parce qu'elle sait sa sensibilité.
D'accord. Donc pour vous, c'est en fait elle a peur de sa réaction, c'est pour ça qu'elle répond pas.
Potentiellement, oui.
Non, bah en fait c'est qu'elle compte, c'est tout.
Mais c'est une réponse très pragmatique, vous
voyez. Mais absolument.
Moi, je suis dans le symbolique et vous êtes dans le réel. Non, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ?
Qu'est-ce que vous voulez, elle compte. Il y en avait... Oui, hein. Ah oui, puis il y avait celui-là. Ah, puis il y avait encore celui-là, etc., etc. Thierry, bonjour.
Oui, bonjour. Bonjour à bonjour Brigitte. Bonjour à votre invité.
Robert Zulli qui est avec nous. Vous voulez parler de...
J'avais la réponse, en fait, hein, donc c'est bon.
Vous aviez la réponse. Ah bah oui, parce que elle a compté longtemps, la vôtre.
Non, mais il faisait partie de la liste.
Ouais, ouais.
C'est ça, vous étiez dans la liste.
Oui, voilà, c'est ça, oui, tout à fait. Donc.
Oui.
Donc, revenons à nos moutons. La joie. Oui, alors la joie.
Non, les moutons, on les compte pour s'endormir.
Oui, c'est pas la même liste.
C'est vrai, c'est vrai. Eh bien, la joie. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire sur la joie ? Moi, ce qui me vient. Moi, j'aurais tendance à dire qu'effectivement, la joie est reliée, bien sûr, au corps, même si ça reste quand même, évidemment, à prouver à chaque instant.
Mais, vous savez quel est, dans le chiatsu, quel est l'organe qui est relié à la joie ?
Le cœur.
Le cœur, absolument. Absolument.
Voilà. Tout à fait. C'est pour ça que j'allais y venir. Et moi, j'aime bien partir de l'expression, en fait, être en joie. Parce que pour moi, enfin pour par rapport à mon vécu et mon expérience, je dirais que la joie ne provient pas d'une volonté en fait. Enfin la joie profonde, c'est-à-dire qu'on peut pas se dire allez je vais être en... sinon tous les gens seraient joyeux en fait. Si on appuyait sur un bouton, tous les gens seraient joyeux. Donc pour moi, elle passe vraiment par une énergie qui est autonome et qui est liée au corps et à autre chose qui me dépasse quoi, finalement quoi. Ça c'est pour moi c'est déjà un premier point, je dirais.
Et, cela dit, toutes les émotions, quelque part, nous dépassent. Hein,
oui, mais ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est qu'effectivement, on ne peut pas se dire, voilà, je fais ça pour être en joie. C'est pas l'intention primaire, c'est pas de se dire, je vais être en joie. Parce qu'effectivement, il suffirait d'appuyer sur un bouton. Et la joie, c'est la résultante d'un travail. Quand je dis un travail, quel que soit...
En même temps, Robert Zulli, on peut décider le matin, par exemple, d'aller faire son footing, parce qu'on sait qu'après, on aura transpiré, on sera bien et on sera joyeux.
Oui, mais il y a peut-être des événements qui vont se dérouler sur lesquels vous n'avez pas de maîtrise et qui peuvent altérer votre joie. Parce que
oui, donc vous êtes un pessimiste.
Mais non, mais pas du tout. C'est que
c'est
ça
si
fait
vous,
partie
vous
de la réalité.
Vous glissez sur une... de banane
où il se met à pleuvoir tellement que vous êtes obligé de rebrousser chemin, ben ça va altérer un peu votre joie. Donc, et ça se décide pas. C'est notre capacité de s'adapter à ces petits inconvénients qui fait que, bah, soit on est très malheureux parce qu'on se dit, voilà, c'est le destin à chaque fois, de toute façon que je veux faire quelque chose, bah, il pleut, hein, franchement. Et il y a des gens qui peuvent en arriver à se dire ça. Et puis il y en a d'autres qui vont se dire, bah, c'est pas grave, j'ai couru 10 minutes, ça m'a fait déjà beaucoup de bien et tout va bien.
Et en plus, j'ai pas besoin de prendre une douche puisqu'il pleut.
Exactement.
Ah, formidable. Bon, Thierry, qu'est-ce que vous avez envie de nous dire d'autre?
Oui, ben moi, non, mais ça rejoint un peu ce que vous dites, parce que moi, je sais que j'anime, par exemple, aussi des ateliers clowns, où je propose aux personnes d'aller, de revenir dans le corps, et puis de s'accueillir, et d'aller vers ce calme intérieur. Et je pense que la joie aussi, pareil, peut s'installer à partir du moment où il y a vraiment, je pense, une tranquillité quand même intérieure. C'est-à-dire que si on est en effusion, qu'on est effectivement dans nos émotions, qu'on est un petit peu ballotté à droite, à gauche, dès qu'il y a une peau de banane, effectivement, ou dès qu'il pleut, ou dès que... je pense que on s'éloigne un petit peu de ce centre intérieur de bien-être qui pour moi existe un petit peu continuellement et qui est sensible à une sensorialité. C'est pour ça qu'effectivement ça passe par le corps et qui est aussi donc toujours présente à partir du moment où on arrive un peu à gérer tout ce qui est émotion et à retrouver ce calme intérieur. Pour moi, ça passe par là.
Oui, alors pour abonder dans votre sens, souvent ce que j'explique, c'est l'état intérieur dans lequel on est quand on vit une situation. Vous avez bien vu qu'il y a des événements similaires qui ne vont pas provoquer chez différentes personnes la même émotion. Il y en a qui vont se satisfaire, qui vont être contents d'un événement agréable, et puis il y en a d'autres qui vont dire « Ouais, mais bon, ça prouve rien, c'était facile », et qui vont pas s'autoriser, et donc à ressentir cette joie. Et c'est ça, c'est qu'on a des niveaux de prédisposition qui sont différents les uns des autres en fonction de l'ensemble des expériences émotionnelles antérieures qui ont plus ou moins rempli cette batterie qui nous permet de s'accorder ces instants de joie. Et on n'est pas tous égaux face à ça.
Oui.
Et ça se retrouve au travers de notre faculté à accueillir les surprises. Il y a des gens pour qui les surprises, c'est de l'imprévu, et l'imprévu, c'est une perte de contrôle, c'est désagréable. Et on n'aime pas. Et puis, il y a d'autres personnes pour qui la surprise, ben, elle sera bienvenue, parce qu'ils s'autorisent à accueillir ça comme étant potentiellement une opportunité plutôt qu'un risque.
Oui, tout à fait. Je suis entièrement d'accord. C'est vrai qu'il y a une certaine, ça demande aussi, je crois, d'aller retrouver cette joie intérieure. Je pense aussi que ça demande une certaine audace aussi. C'est-à-dire, effectivement, ça rejoint ce que vous dites, hein, la curiosité. Et puis, le fait d'être prêt à l'imprévisible et puis de vouloir effectivement d'avoir une volonté, je crois, positive de la vie, quoi. C'est-à-dire, ne pas avoir peur de l'instant qui va suivre. Et pouvoir pleinement profiter de l'instant présent.
Thierry nous parle de positif. Tout à l'heure, on avait, je crois que c'est Catherine qui parlait d'optimisme.
Et de verre à moitié plein.
C'est vrai qu'on n'est pas loin de la joie, mais en même temps, c'est un état d'esprit. L'optimisme, c'est pas une émotion.
Oui, c'est un état d'esprit, c'est une intention, et ça marque notre capacité à transformer les obstacles en choses qui ont de la valeur. Et on le voit bien aujourd'hui avec les événements qui se passent dans notre société, il y a des gens pour qui n'importe quel changement est une source de douleur. Parce que on est déjà en situation de souffrance, que la vie est difficile, qu'on finit pas ses fins de mois, enfin qu'on les finit très difficilement, et que la moindre nouvelle constitue une goutte d'eau supplémentaire dans cette vasque de la souffrance. Et on n'est pas tous égaux face à ça. Il y a des gens pour qui la pluie, ben c'est une aubaine, et pour d'autres, ben voilà, c'est encore une source d'enquiquinement parce que ça va moins bien circuler, parce que on n'a pas pris le bon manteau, qu'on a oublié son parapluie et qu'il y en a marre. Et on n'est pas tous aptes à accueillir tout ça.
Et on est évidemment différents, mais c'est peut-être aussi ce qui fait la richesse de la nature humaine. Merci beaucoup Thierry, on va se retrouver dans un instant avec Ambre, et là on va parler de quelque chose qui quand même normalement met en joie, on va parler de l'orgasme.
Brigitte Lahaye, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News.
Eh bien Robert Zuilly, je ne vous présente plus Ambre, je crois que vous vous connaissez bien, bonjour Ambre.
Bonjour Brigitte, et bonjour à Robert.
Bonjour Ambre.
Et bonjour aux auditeurs et auditrices. Alors, aujourd'hui, j'espère que cette chronique va effectivement mettre en joie quelques auditrices, puisque je vais parler de l'orgasme. À vrai dire, j'avais envie de parler de l'orgasme qui vient du vagin. J'aime pas trop dire l'orgasme vaginal parce que, en fait, un orgasme vaginal, comme ils disent dans les revues, sur Internet, etc., ça vient aussi du clitoris. Donc, c'est tout ça que je vais expliquer, en fait. Le vagin, c'est quoi? C'est une zone érogène super sensible. Et parfois, comme on parle beaucoup du clitoris, quand on se toucher le clitoris, on parle pas trop du vagin, j'avais envie de remettre en faveur cette zone-là. Donc, le vagin, je vais expliquer à Robert ce que c'est un organe interne. Il faut surtout pas le confondre avec la vulve qui englobe les grandes lèvres et l'entrée du vagin. Le vagin, c'est quelque chose de creux, ça mesure environ 8 cm de profondeur, 8 cm. Attention, quand on sait qu'un pénis moyen fait 12 cm, on peut s'assurer que les petits pénis, ils ont largement de quoi faire. Ça ressemble à une sorte de tunnel courbé qui est plus étroit au niveau de la vulve que dans sa partie interne. C'est relié à l'utérus pour laisser passer, par exemple, le flux menstruel. Les parois sont faites de tissu élastique qui s'adaptent selon la pénétration. En effet, c'est un organe modulable qui peut s'agrandir ou qui peut s'élargir plutôt lors d'un accouchement, par exemple, et reprendre sa forme initiale. Donc, il est entouré de muscles qui se contractent lors de l'orgasme. Effectivement, les muscles se contractent quand on a un orgasme, et la meilleure façon de vérifier, mesdames, c'est quand vous avez un orgasme, mettez un doigt à l'intérieur et vous verrez vos muscles qui se contractent.
Il y a déjà quelque chose à l'intérieur, non?
oui, mais pour celles qui se touchent le clitoris,
ah,
justement.
Ah, pardon. Oui, voilà. Je crois, d'accord. Ok.
Qui se masturbe avec les doigts dans le vagin, quand on met son doigt à l'intérieur au moment de l'orgasme, et ben ça se contracte de façon très très rapide, plusieurs fois, jusqu'à 6 ou 7 fois. Donc, les parois contiennent une grande quantité de vaisseaux sanguins et de terminaisons nerveuses, alors bien moins effectivement que le clitoris, qui en possède 8000, mais notamment à l'entrée, il y a une zone très érogène, très très sensible. Donc pour les petits pénis, ça peut servir aussi. Alors, Brigitte, Robert, est-ce qu'il y a un orgasme vaginal? Est-ce que ça existe?
Mythe ou réalité?
En fait, le vagin est entouré de muscles, comme je l'ai dit, mais il est surtout entouré par le clitoris, qui a des ramifications de 10
centimètres. Par les racines, hein.
Voilà, qui a des ramifications de 10 cm en interne.
Sinon, ils vont aller mettre la langue à l'intérieur du vagin pour essayer de stimuler le clitoris. Ils vont s'étouffer.
Donc les deux sont donc reliés en fait, clitoris et vagin, mais on le sait que depuis très peu de temps en fait, hein, puisqu'on connaît vraiment la forme du clitoris que depuis très peu de temps. Donc les deux sont reliés. Lorsque le vagin est stimulé par une pénétration d'un pénis ou par la pénétration de doigts ou par la pénétration de sextoy, le clitoris l'est nécessairement. Donc tout ça pour dire que l'orgasme dit vaginal de Monsieur Freud est indissociable de l'orgasme clitoridien, au point que beaucoup estiment qu'en fait il s'agit de la même chose ou que tout simplement l'orgasme vaginal n'existe pas. Est-ce que en stimulant uniquement le vagin, on arrive à avoir un orgasme? Ben, je dirais oui, mais on en aura un peut-être plus grand si on arrive à stimuler toutes les parties du clitoris. On en stimule quelques-unes avec la pénétration, mais pas suffisamment puisqu'on stimule juste les parties sur les côtés, en fait. Voilà ce que je voulais expliquer. Alors, il y a des positions à privilégier pour atteindre ce fameux orgasme qui vient du vagin. Il faut des pénétrations profondes. Brigitte me contredira pas, puisqu'elle en parle aussi souvent.
Je ne me permettrai pas, Ambre.
Il y a la levrette qui marche bien. Et il y a le missionnaire, mais pas n'importe quel missionnaire, c'est lorsque la femme a les jambes surélevées. Et ça, vous le dites souvent. Par exemple, on pose un coussin sous les fesses de madame, ou alors les jambes s'entrecroisent dans le dos de monsieur. Et ça marche mieux, réellement. Ou alors la position du lotus, quand tous les deux sont assis, puisque la pénétration est beaucoup plus profonde. Et alors, la position de la levrette est peut-être idéale, parce qu'en fait, monsieur peut peut-être aussi toucher le clitoris, enfin, je veux dire, la pointe du clitoris, au moment où il pénètre sa partenaire par le vagin. Voilà. Dans le vagin, on a quoi également? On en parle aussi beaucoup. On a le point G, qui n'est pas un point, qui est une zone sensible, que certaines femmes n'ont pas découvert, que certaines femmes ont découvert. Et ce point G, il est à l'entrée du vagin. C'est une zone très sensible, qui est environ à 3 cm, comme une phalange. Et lors de l'excitation, il est plus facilement détectable grâce à la muqueuse qui se gonfle à cet endroit-là, qui est plus épaisse à cet endroit. Et pour aller le voir, pour aller le sentir, c'est parce que le voir, pour aller le sentir, le ressentir avec ses doigts, ce fameux point G, il faut s'asseoir, accroupi, et introduire un doigt avec la paume vers le haut, et on fait un mouvement de va-et-vient avec le doigt. Venez par là, vous voyez Robert ce que je dis, viens par là, avec mon doigt.
D'accord.
Vous voyez?
Merci. Vous le visualisez.
J'essaye à distance.
Il est très concentré, moi je vous confirme.
Je prends des notes.
Il est très très concentré.
Donc, paume vers le haut, vers le ventre, recourbez le doigt. Et là, à 3 cm du vagin, on peut sentir cette zone.
Sur
mais
la face supérieure du vagin.
Exactement. Mais encore une fois, il y a des femmes qui n'ont pas ressenti cette zone. Donc, je ne veux pas généraliser. Je voudrais dire aussi, mesdames, qu'on peut atteindre un orgasme dit vaginal par la masturbation, qu'on n'a pas forcément besoin d'un pénis. Pardon, Robert. On peut utiliser ses doigts. En s'allongeant sur le lit, il faut d'abord s'exciter, bien lubrifier et vous introduisez un ou plusieurs doigts si nécessaire dans le vagin. Le tout, c'est que vous vous sentiez rempli ou pas. Certaines femmes n'ont pas besoin de se sentir remplies, d'autres ont besoin de se sentir remplies, donc vont peut-être mettre plusieurs doigts. Mais vraiment, voir comment vous vous sentez le mieux. Vous variez le rythme du va-et-vient de votre main jusqu'à atteindre la jouissance et vous essayez aussi de toucher en même temps la base du clitoris pour avoir plus de sensations.
Vous pouvez... En tout cas, ce qui est intéressant dans ce que vous dites, Ambre, c'est que vous donnez le conseil aux femmes d'aller un peu chercher elles-mêmes ce qu'elles ressentent pour justement éveiller la belle endormie.
Et pour moi, c'est impératif d'aller explorer cette zone avant même un sextoy, avant même un jouet, d'y aller avec ses doigts. En fait.
Alors, c'est vrai, et tout va dépendre aussi de la capacité qu'a la femme à introduire des doigts. On sait que c'est pas si simple d'y mettre la main, parce qu'il y a beaucoup encore de pudeur, d'éducation, de culture. Donc, chacune fait ce qu'elle peut.
Mais en fait, avec les doigts, ça permet vraiment de ressentir quelque chose et de voir, parce que toutes les femmes sont différentes et je m'en suis aperçue en discutant avec plein de femmes, une va ressentir un point sensible à droite, l'autre à gauche, l'autre par derrière, l'autre par devant, un point G qui est peut-être un peu plus loin que 3 cm. Donc il faut vraiment aller ressentir ce qui nous va et ce qui nous fait plaisir. Parce qu'à partir du moment où on sait ce qu'on aime, eh ben, on va pouvoir le montrer au partenaire. Et puis lui dire, ben non, c'est comme ça qu'il faut que tu fasses. Et c'est comme ça qu'on aura une sexualité épanouie. Parce que pour moi, il faut vraiment se connaître, mieux se connaître. C'est la clé pour avoir une meilleure sexualité. Après, vous pouvez prendre des sextoys, effectivement, puisqu'il y a des vibromasseurs aussi.
Et qui donnent de bonnes sensations. Même un homme, d'ailleurs. Hein.
Même un homme, oui, mais là, je parle de la masturbation. Même un homme, bien sûr, mais le vibromasseur est intéressant aussi.
Non, mais je veux dire, quand je dis ça, je ne parlais pas forcément du pénis. Je veux dire, mais on peut conseiller aussi aux hommes, avec leurs doigts, d'essayer de stimuler leur partenaire. Et c'est aussi une découverte qui est intéressante et pour l'homme et pour la femme.
Bien sûr. Et même, je le recommande encore mieux, parce que si la femme n'y arrive pas elle-même, peut-être que l'homme, justement, va débloquer quelque chose. Enfin, le partenaire va débloquer quelque chose.
Oui, et puis quand même, je suis évidemment une adepte de la masturbation. Je crois que tout le monde le sait. Mais le fait que ce soit le partenaire qui va stimuler, notamment avec ses doigts, les différentes zones du vagin, pour la femme, ça peut être quelque chose de plus excitant et donc plus efficace sur le plan du ressenti.
Mais bien évidemment, voilà. Donc je recommande à toutes les auditrices d'aller explorer leur vagin ce soir.
Eh bien, on a compris.
Messieurs,
mesdames.
Si vous avez envie d'y aller aussi. Hein,
tenez-vous prêts. Mais en même temps, vous nous compliquez un peu la tâche aussi. Ambre, parce que c'est compliqué, vous n'êtes pas toutes les mêmes, donc franchement, c'est pas sympa, quoi.
C'est exactement ce que je
disais. Déjà, essayez de découvrir la vôtre. Hein.
Voilà.
Déjà, il y a du boulot.
Elle vous a appelé.
Merci, Ambre.
Bonne fin de journée.
Merci, on se retrouve dans un instant, bien sûr, sur Sud Radio 0826-300-300. Si vous voulez réagir aux propos de Ambre, bien sûr, vous pouvez prendre la parole. Est-ce que vous avez fait déjà cette petite recherche, justement ?
Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes.
Brigitte Lay, Sud Radio. Le Love Conseil.
Alors, je ne sais pas si vous serez d'accord, mais Robert Zuilly, j'ai pensé à ce Love Conseil parce que je pense que ça nous remet en joie aussi de revivre des moments qui sont passés, mais qui ont été des bonheurs, des moments, en tout cas, des moments agréables. Et je trouve que c'est un exercice qui permet de peut-être plus positiver et de se remplir d'ondes plus optimistes, mmh. en quelque sorte. Donc, je trouve que ça peut être intéressant de s'amuser à faire un petit bilan et de trouver les 10 meilleurs moments, par exemple, de votre vie affective, pourquoi pas de votre vie professionnelle, remarquez. Hein, mais bon, vous savez très bien qu'on parle plutôt d'amour et de sexualité dans cette émission. Les 10 meilleurs moments sexuels, pourquoi pas, un soir, avant de vous endormir, d'essayer de revivre justement une période de joie et de bonheur. Et en récupérant régulièrement ces moments de vie agréables, je pense qu'on peut avoir la vie sous un meilleur angle. Et je crois que c'est d'autant plus important dans les moments de doute. Alors, je dirais pas dans les moments de vraie souffrance, parce que quand on est triste, il faut accueillir aussi sa tristesse. Mais dans les moments où on est un peu dans le doute, où on a un peu tendance à ressasser ce qui est difficile et pénible, je trouve que s'ouvrir comme ça un peu à la joie, ça peut être intéressant. Et alors cet exercice, il est double parce que non seulement vous allez nourrir votre esprit d'ondes positives, mais vous allez aussi vous programmer peut-être de manière plus positive dans le futur. Puis bien sûr, on peut faire cet exercice à deux, hein, on peut le faire en couple. Quels sont les meilleurs moments de notre couple? Ça peut être un bon moment de se retrouver aussi dans la joie.
Bien sûr. Et ce que vous évoquez, ça participe de bien faire la différence entre ce qu'est la nostalgie et le remords. La nostalgie, ça appartient à cette catégorie de sentiments, d'état, dans lequel vous vous remémorez une situation qui a été agréable et qui a suscité des émotions positives. Et le fait de le revivre, ça vous met en joie. C'est comme ça qu'il y a plein d'objets qui ressuscitent d'un passé enfoui, mais pour lequel on y a associé des situations très agréables. C'est comme ça que le vinyle est revenu à la mode. C'est comme ça qu'il y a plein d'objets qui reviennent à la mode parce que ils font partie d'un passé qui a suscité une émotion positive. Et en le retrouvant cet objet, on recrée tout cet univers émotionnel parce que on sait bien que l'émotion est dans le cerveau limbique associée à la mémoire et que les deux sont étroitement corrélés. Et c'est pour ça qu'il y a des objets qui sont redevenus à la mode et qu'on en fait un commerce. Et tant mieux, pourquoi pas. La mémoire et le souvenir, l'histoire qu'on a vécue, c'est la même chose. Le remords, c'est un sentiment négatif, c'est-à-dire qu'on culpabilise parce qu'on n'a pas fait ce qu'on aurait dû faire ou on a fait alors qu'on n'aurait pas dû faire. Et donc, le remords renvoie au regret, là où la nostalgie renvoie justement à la joie.
Et dans un couple, quand on est ensemble depuis assez longtemps et qu'on a l'impression que le couple ronronne un peu ou s'endort, je crois que c'est pas mal de revivre ensemble ces moments
que de se souvenir de nos crises et de dire qu'on va pas en sortir et que l'autre nous comprend pas et qu'il en a marre. Bien sûr que ça peut recoller, ça peut nous reconnecter à ces éléments qui sont la synchronicité dans un couple qui crée de la complicité, hein, vous le savez, et c'est important de s'accorder un temps aussi pour y repenser. Pour ne pas mettre aux oubliettes tous ces bons moments qui font partie de l'histoire de notre amour. Et c'est une vraie richesse.
Et puis je crois que Ludovic réagit à Ambre qu'on vient d'entendre. Vous y mettez les mains aussi, Ludovic, bonjour.
Oui, bonjour. Bonjour Robert.
Bonjour.
Bonjour. Oui, alors moi, je souhaitais réagir par rapport à ce qui avait été dit juste avant. En ce qui concernait du coup ma compagne et moi-même, donc ça fait un petit moment qu'on est ensemble. Et moi j'essaie de lui expliquer que la masturbation, elle connaît pas ça. Et j'essaie de lui expliquer que la masturbation, ça permettrait à ce que ça aille mieux dans notre couple. Parce que bon, avant j'avais beaucoup d'expérience, donc j'étais assez à l'aise avec les femmes, et donc après je les faisais jouir très facilement, j'avais aucun problème à ce niveau-là. Et elle, c'est vrai qu'elle n'a pas eu des très bonnes expériences auparavant. Et du coup, en fait, je paye un peu les pots cassés. Et du coup, c'est un peu compliqué pour elle de m'écouter et savoir, en fait, j'essaie de lui expliquer que c'est assez sain la masturbation et c'est pas malsain. Et elle voit plutôt comme quelque chose de sale. Donc,
Bien sûr. Vous êtes ensemble depuis combien de temps, Ludovic?
Ça fait une dizaine d'années.
D'accord. Et depuis 10 ans, vous n'avez pas réussi à ce qu'elle envisage peut-être un peu plus de se caresser?
Non, elle essaye un peu parce que je l'impose. Il faut que je lui dise, sinon d'elle-même, elle ne le fait pas. Et après, bon, quand il y a des sextoys, il y a certains sextoys qui marchent bien, mais il y en a un, voire sur... J'ai pris une panoplie, mais il y en a un qui marche bien, et puis les autres, elle met de côté, quoi.
C'est déjà bien s'il y en a un qui marche bien.
Oui, voilà, mais après, c'est que au niveau du clitoris, après, au niveau du point G, comme on parlait avant, je sais que Et je sais où il se trouve. Bon, toutes les femmes, c'est plus ou moins différent, mais bon, je sais...
Mais est-ce, qu'elle accepte, qu'elle accepte que vous, vous introduisiez un doigt pour aller toucher son point G, justement ?
Eh bien, il y a des endroits, à vrai dire, il n'y a pas de problème. Je peux mettre des doigts, enfin, 2, 3, 4 doigts. Il n'y a pas de problème là-dessus. Après, ben, quand je stimule des zones, il y a des zones, ça la gêne. C'est pas forcément qu'elle est mal, mais c'est que ça la gêne.
Donc, ça la gêne parce que ça la démange ou parce que ça la gêne psychologiquement ?
C'est pas agréable.
Je ne sais pas, ouais, c'est peut-être pas forcément agréable, ouais, alors que, est-ce que j'ai l'impression que qu'elle se prenne.
Parce que vous voyez, j'entends bien, hein, c'est une femme qui a du mal à communiquer sur la sexualité, donc c'est pas facile pour vous, mais c'est toujours important quand une femme répond « ça me gêne », il faut sentir si ça gêne physiquement ou intellectuellement, enfin, ou si c'est... Enfin, intellectuellement, c'est pas intellectuellement, d'ailleurs, hein, mais...
Dans la représentation,
vous voyez, c'est pas associé, oui. C'est pas la même chose, parce que si ça la gêne... dans sa tête, c'est pas la même chose que si c'est parce que c'est désagréable, enfin, en tout cas, c'est pas agréable.
Oui, oui.
Mais vous comprenez, vous disiez une chose tout à l'heure qui était importante, vous disiez finalement, c'est comme si c'était sale pour elle. Et si c'est sale, ça veut dire qu'elle ne peut pas s'autoriser à éprouver du plaisir parce que forcément, elle va se sentir coupable de ce qui s'est passé. Et si vous voulez l'aider, c'est probablement pas en lui imposant, parce que de toute façon ça va pas changer sa posture, mais c'est probablement en l'aidant à comprendre d'où ça pourrait lui venir cette association d'idées et la culpabilité, et à quoi ça la renvoie et comment elle pourrait faire évoluer justement cette représentation d'une sexualité qui serait sale parce que pas fonctionnelle au sens classique du terme.
Voilà, elle n'éprouve pas le besoin, entre guillemets. Elle pourrait s'en passer, voilà.
Mais si je comprends bien, Ludovic, vous avez envie qu'elle se masturbe, parce que vous pensez que si elle se masturbait, votre sexualité irait mieux.
Mais c'est pas qu'elle apprenne à se connaître, parce que moi, je fais des choses, mais elle ne me parle pas forcément. Donc il y a des choses qui sont bien, et des fois je lui dis, est-ce que c'est bien, c'est pas bien. Elle me dit, oui, c'est bien, mais enfin, elle ne me parle pas, donc
oui. Mais comprenez bien que vous êtes tombé amoureux de cette femme-là, vous avez fait ce choix-là, il faut que vous l'acceptiez dans sa façon de fonctionner. Vous ne pouvez pas changer sa façon de fonctionner. En revanche, si elle arrive à la jouissance avec vous, bah, c'est pas grave, vous voyez. Parce que ce que vous réclamez, finalement...
C'est oui, pas régulier, quoi.
Mais ce que j'essaye, Ludovic, ce que j'essaye de vous faire comprendre, c'est que c'est pour vous que vous voudriez qu'elle se masturbe. C'est pas pour elle.
Franchement, non, c'est pour les deux, je pense. Ça me fait pas
oui, souvent, oui, bien sûr. Bien sûr, c'est pour les deux, mais vous arriverez à votre objectif en tenant compte de son fonctionnement, pas en essayant de changer son fonctionnement.
D'accord.
Vous voyez, c'est-à-dire plus vous allez vous amuser ensemble à expérimenter ce qui peut être agréable pour elle, donc il faut que vous soyez un artisan, il faut que vous alliez, vous voyez, à ce moment-là, vous allez améliorer votre sexualité à tous les deux. Mais si vous lui demandez de faire des choses qu'elle n'est pas capable de faire, vous allez un peu la bloquer et à mon avis, ça ne va pas avancer vite.
Après, ce que j'avais essayé de faire aussi, c'est que moi, vu que ça lui disait trop rien avec ses doigts, moi avec les miens, d'essayer de toucher plusieurs endroits pour lui dire ou d'appuyer, lui dire est-ce que t'aimes bien, mais j'ai l'impression qu'elle ressent pas grand-chose, donc ou elle veut pas me le dire, je sais pas.
Alors
mais,
prenez déjà un autre langage. Ne prenez pas le langage, est-ce que c'est bien, est-ce que ça te fait du bien. Prenez un langage, je sais pas, par exemple des couleurs de l'arc-en-ciel, est-ce que c'est plutôt chaud, est-ce que c'est plutôt froid. Parce que visiblement, elle a aussi du mal à exprimer les mots du plaisir et les mots du sexe.
Et que si elle est dans cette représentation que c'est sale, elle est forcément dans le jugement de valeur. Et quand vous lui dites est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal, vous la confrontez à nouveau au jugement de valeur. Or, c'est quelque chose qu'elle devrait mettre à distance. Il se pourrait qu'elle puisse être dans le lâcher-prise, mais pour être dans le lâcher-prise, il faut qu'elle se l'autorise et que vous l'accompagniez, et pas qu'elle se sente l'obligation de le faire pour vous faire plaisir. Parce qu'elle se met dans un mode de passivité et elle ne prend pas le contrôle de la situation. Et c'est tout ça que vous pouvez l'aider à éprouver. En fait.
Parce que c'est difficile pour quelqu'un qui considère que le sexe, c'est un peu sale, de dire oui, c'est bon, voyez ? C'est difficile. Oui, oui. Tandis que dire, c'est bon, les couleurs de l'arc-en-ciel, vous les connaissez. Bon, la dernière couleur, c'est indigo. Si elle vous dit c'est indigo, c'est plus facile pour elle de prononcer ce mot-là. Alors après, je ne dis pas qu'il faut prendre les couleurs de l'arc-en-ciel. Vous pouvez prendre d'autres choses. Hein. Mais voyez, essayez de jouer sans utiliser tout ce qui est en rapport avec la sexualité. Et à ce moment-là, elle va pouvoir tout doucement transmettre des messages qui vont vous permettre d'avancer dans le plaisir que vous avez envie de lui apporter et donc le plaisir que vous allez en recevoir, puisque vous aurez vraiment, à ce moment-là, vous aurez vraiment la satisfaction et donc la joie d'avoir fait progresser cette femme dans sa sexualité.
C'est ça, parce qu'à vous écouter, Ludovic, le risque potentiel, c'est que vous vous considériez en échec, vous en tant qu'homme, et que vous perdiez patience. Et qu'en perdant patience, elle le sente et que ça ne fasse qu'aggraver la situation.
Mais c'est pas ce qui se passe, mais des fois je fais un peu patience. Oui, c'est sûr. Et que oui. Au bout de 10 ans, voilà, moi j'avais des relations avant où ça se passait très bien, au bout de pas longtemps, où ça se passait très très bien. Voilà, après là, elle a eu des. C'est pareil, au niveau de la lubrification vaginale, c'est un peu compliqué aussi. Donc je lui dis, comme elle a eu deux grossesses, je lui dis, vois avec la rééducation du périnée, là, les appareils qui existent et tout. Donc bon, je vais investir là-dedans. Voilà, après j'espère que ça ira mieux par la suite, parce que apparemment ça pourrait y jouer.
Mais écoutez, vu que vous avez l'air d'être un manuel, vous pouvez lui faire sa rééducation avec vos doigts aussi, et c'est à ce moment-là,
oui,
c'est
oui,
un jeu,
hein.
Et puis n'hésitez pas, vous prenez un peu de lubrifiant pour pas lui faire mal, justement.
Mais je vous invite à ne pas le faire comme un exercice. Ne vous mettez pas dans une démarche opératoire où il y a une sorte de manuel et on suit le manuel.
Non, on joue.
Jouez, voilà. Transformez ça en fantaisie pour qu'on puisse dépasser cette démarche très organisée qui enlève un peu de saveur.
Il y a une autre chose essentielle aussi, Ludovic. J'entends bien hein, que c'est par moments un peu désespérant, etc. Mais il ne faut pas qu'elle le sente. Il faut qu'au contraire, elle ait l'impression que vous êtes tout à fait admiratif de ses progrès et de tout ce que ça vous apporte. Vous voyez, parce que sinon, vous la mettez...
En situation de culpabiliser à nouveau.
Vous voyez, hein.
Non, mais moi, je lui dis des fois quand même, parce que des fois, elle fait... Je ne dis pas qu'elle fait tout mal, hein, bien au contraire. Hein. Mais des fois, quand elle fait des choses qui me plaisent, c'est lui faire savoir. Quoi. Donc,
c'est un peu comme un enfant qu'il faut lui apprendre un métier ou un sport. Et donc, il faut être très encourageant.
Très bienveillant. Et effectivement, lui dire, pas des fois... Pas quand c'est excellent, mais lui dire même quand c'est juste bien, ben que vous la remerciez d'avoir partagé ça avec vous et que ça vraiment ça vous a fait plaisir. Vous voyez ça?
Oui, c'est ce que je fais, mais comme c'est ce que je lui reproche, c'est que c'est vraiment très peu souvent. Quoi.
Alors Ludovic, j'entends le terme reproche, hein, je l'entends fort. Quand vous avez envie de lui reprocher quelque chose, posez-vous la question, pourquoi j'ai choisi cette femme alors que je savais bien que c'était pas... il faut aussi se remettre en question soi. Hein.
Vous avez choisi dire qu'il pourrait avoir une part de co-responsabilité.
Non, mais il a choisi de gravir l'Everest. Oui. Il aurait pu choisir une...
Le Mont Ventoux.
Hein, on est d'accord. Donc voyez bien que quelque part, vous vous êtes mis face à quelque chose qui était quand même pas facile. Donc, assumez maintenant, hein, au boulot.
C'est ça qu'elle elle m'a dit au début. Elle m'a dit qu'elle comptait sur moi pour lui faire connaître un peu les choses. Quoi.
Voilà. Bon, et ben alors, hein, remplissez votre mission. Et puis, c'est une mission à long terme. Vous en avez encore pour 20 ans, mais...
Et ne lui montrez pas que vous attendez qu'elle vous fasse plaisir. Montrez que vous lui attendez qu'elle se fasse plaisir.
D'accord.
Merci en tout cas, Ludovic. Oui. Merci beaucoup.
Merci de m'avoir écouté.
Je vous en prie.
Merci.
On se retrouve dans un instant sur Sud Radio 0826-300-300. À tout de suite.
Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes.
14h, 16h, Brigitte Lahaye. Sud Radio.
Avec Robert Zuilly, nous parlons de la joie. Alors, qu'est-ce qui vous met en joie, vous, Robert Zuilly?
Et C'est le fait de savoir me réjouir des choses auxquelles à côté desquelles je pourrais passer sans m'en rendre compte. Ce sont des petits plaisirs futiles auxquels on oublie d'accorder de l'importance. Et ce sont ces petites satisfactions, ces petits combats du quotidien qui font que finalement le reste de la journée est bien plus agréable. C'est important, je considère, de savoir regarder ces petites choses-là et de pas les minimiser. Ça peut être un rayon de soleil, ça peut être un sourire, ça peut être une discussion qu'on n'avait pas imaginée et qui se prolonge. Ça peut être un débat houleux, mais sur lequel on partage nos idées. Ben, tout ça, je considère que ce sont comme des petites victoires, des cadeaux qu'on s'accorde et auxquels il faut accorder de l'attention parce que ça
contribue. C'est toujours ça de prix. Hein.
Ouais, exactement.
Absolument. Bonjour Bernard.
Oui, bonjour. Allô?
Oui, on vous entend, Bernard, allez-y.
Je suis vraiment heureux, mais alors là, j'ai une joie incommensurable de vous avoir maintenant, là, Brigitte et Robert, parce que j'attends depuis 14 heures et j'ai eu la sagesse de vous écouter jusque-là, et c'est merveilleux. Bon, effectivement, je dois vous dire que je suis sur les vibrations absolument de Robert, hein, parce qu'effectivement, les émotions, hein, la joie et le bonheur sont des émotions et de l'énergie très puissante, effectivement. Et comme on disait au début, les enfants, eux ont cette joie et ce bonheur inné jusqu'à l'âge de 7 ans, tant que leur subconscient, ils sont dans le subconscient. Ils n'ont pas encore leur conscient qui agit, ce mental ego, qui est toujours en train de nous titiller pour nous dire « fais ci, fais pas ça, t'as peur, t'as pas peur » et tout ça. Donc,
Bernard, c'est très juste hein, ce que vous dites. Les enfants sont jusqu'à 7 ans, il n'y a pas assez d'ailleurs, on parle de l'âge de raison, hein, jusqu'à 7 ans, ce sont des êtres d'émotion. Mais il n'y a pas que la joie, d'abord la peur de naître, il paraît que, moi je ne m'en souviens pas, personne ne s'en souvient, mais il paraît que l'arrivée au monde est quelque chose d'effrayant pour un nourrisson. Donc il y a bien sûr de la joie, et d'ailleurs c'est ce qu'on aime chez les enfants, cette capacité qu'ils ont à s'émerveiller très, très facilement pour...
Oui, on parle de pureté et de naïveté d'ailleurs. Comme pour les excuser d'être connectés à des émotions positives. Et c'est terrible de perdre ça en étant adulte. Alors évidemment, il ne s'agit pas de s'émouvoir et de considérer qu'on est dans le monde de oui-oui et que tout va bien. Mais c'est important de se connecter à ces émotions et de faire revivre l'enfant que nous sommes, l'enfant intérieur, comme disent certains psys.
Voilà, exactement. Ho oponopono, l'enfant intérieur, notre esprit supérieur et notre divinité intérieure. Et à ce moment-là, on se connecte à ce champ unifié. On rentre dans la physique quantique, mécanique quantique, qui, moi, m'ont révélé des choses sensationnelles avec les spiritualités ancestrales et les arts martiaux. J'ai fait 40 ans d'arts martiaux.
Oui. Et puis, vous venez de parler aussi de divin. Et c'est vrai que la joie dans la spiritualité positive, et je ne parle pas évidemment du fanatisme religieux, parce que là, on est dans la colère. Hein. Ouais. Mais elle est là, la joie aussi. Hein.
C'est notre mission éphémère. Vous savez qu'on on vit en moyenne à 80 ans sur cette magnifique planète, parce que ça c'est une joie énorme de vivre sur cette planète qui est magnifique et qu'on est en train de, malheureusement, de dégrader.
Oui, l'éternité tuerait ça, hein, d'ailleurs.
Pardon ?
Si nous nous savions éternels, ça tuerait complètement tous ces enjeux que vous évoquez là.
Justement, quand on se connecte à la nature et à ce champ unifié...
Oui, mais ça enlèverait peut-être la peur.
Oui, mais ça enlèverait beaucoup de charme aussi.
Oui, aussi. Mais c'est vrai que notre mission, je vous disais, éphémère, pour moi, hein, c'est mon concept, hein, c'est pas le concept de tout le monde,
et on vous écoute, Bernard.
C'est l'amour inconditionnel, c'est-à-dire c'est le respect. Alors justement, dans l'amour inconditionnel, on vient au physique, puisque je n'ai pas la tête que dans les étoiles, puisque j'ai un corps physique, un véhicule physique extraordinaire, composé de 100 000 milliards de cellules qui sont conscientes et intelligentes, et je rejoins absolument le docteur Robert, parce que nous sommes des êtres quand même, ce véhicule-là est vraiment divin. Il est divin à tous les points, au niveau physique, au niveau mental, au niveau spirituel, nous sommes vraiment des êtres extraordinaires. Et ça, il faudrait que les gens prennent conscience, et c'est pour ça qu'ils ne s'aiment pas.
Mais donc, Bernard, cette exaltation dont vous faites preuve, elle n'est pas donnée à tout le monde. Quand vous éprouvez des difficultés dans la vie, quand vous êtes malheureux parce que vous avez le sentiment que tout vous tombe sur la tête en même temps, la voiture qui fonctionne plus, les impôts qu'il faut payer, on est en retard, ben, vous croyez qu'on a cette capacité telle que vous l'exprimez? C'est insupportable ce comportement-là pour ces gens-là.
Oui, bien sûr.
Je peux vous dire quelque chose? Vous savez, bon, j'ai 68 printemps. J'ai bossé très dur dans ma vie. J'ai eu des malheurs. J'ai eu des grands bonheurs. Actuellement, ma femme est diagnostiquée Alzheimer. Et le seul remède, il n'y a pas de remède. Il n'y a pas de remède médical actuellement. Le seul remède, c'est l'amour inconditionnel. Et je le vois. Et c'est ça qui la maintient, qui lui maintient ses neurones. Hein. Vous voyez, donc, il y a possibilité de tout transmuter dans la vie. Et c'est cette transmutation.
Mais moi j'aime bien, Bernard, j'aime bien votre témoignage et je trouve que c'est bien qu'on termine avec un témoignage aussi positif parce que c'est vrai que on a rencontré des personnes qui ont un grave handicap et qui sont des personnes terriblement joyeuses. Et puis on rencontre des gens qui finalement n'ont peut-être pas, la vie la plus rêvée, mais qui ne sont pas à plaindre et qui sont des gens
autant,
tout le temps en train de râler.
Et qui sont des victimes.
Oui, tout à fait.
Donc vous avez raison, Bernard. Moi, je crois beaucoup.
On crée son bonheur. On se co-crée son bonheur et sa joie. Et ça, j'en suis arrivé à 68 ans, j'en suis persuadé.
Et d'ailleurs, vous nous avez parlé de vos 68 printemps. Vous ne nous avez pas parlé de vos 68 hivers.
68 printemps. Et vous voyez, l'an prochain, j'arrive à 69. Alors, 69, c'est
pas chaud. Quelle promesse.
Tout à l'heure, on parlait de boutons.
N'allez pas trop vite parce que vous allez faire un tête à queue.
Tout à fait. Voilà, oui, donc c'est vrai qu'en fait c'est tout simple. La vie devrait être simple. On se complique la vie, mais magistralement.
Mais Bernard, les gens qui souffrent vont vous dire que la vie est compliquée, que vous vous en rendez pas compte, que c'est dingue. Comment vous pouvez dire ça? Vous voyez? Alors que je vous rejoins, bien sûr, on a tous une part de co-responsabilité dans ce que nous vivons. Nous ne sommes pas des victimes, mais c'est très complexe, parce qu'on ne nous a pas appris à le faire.
Nous sommes uniques, nous sommes chacun uniques avec un film, nous sommes les acteurs et les figurants, on a un rôle dans cette vie, unique chacun, et effectivement on ne peut pas avoir le rôle de l'autre. Même si on se regarde dans un miroir, chacun est véritablement unique, mais a tous les pouvoirs quand même, on a tous les pouvoirs en nous avec cet ordinateur quantique que nous avons intégré à notre corps physique, qui est merveilleux, on a tous les logiciels possibles, mais le problème, c'est il y a beaucoup de gens qui sont dans l'ignorance et qui ne veulent pas essayer de s'instruire.
Alors c'est surtout beaucoup de croyances, me semble-t-il, mais bon, on reviendra bien sûr sur tous ces sujets. En tout cas, ça nous a mis en joie de vous entendre, Bernard.
Tout à fait.
C'est toujours une joie de vous recevoir, Robert.
Merci,
Zilly.
Et pour moi,
et je suis
Brigitte,
très triste que vous partiez.
Et moi, une joie de revenir et de passer ces bons moments privilégiés avec vous.
Voilà, et vous restez dans la joie, bien sûr, puisque vous allez retrouver Trina pour C'est votre avenir avec Bruno Denis aujourd'hui et demain avec Stéphane Clerget. On essayera de voir comment on peut aider les jeunes garçons à se construire en étant virils sans devenir des machos. Voilà notre programme de demain.